Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode d'après-course du bulletin GP. Marc-André Fortin ici en remplacement d'Abdou Sall qui s'absente pendant une période d'un mois au complet pour aller rejoindre ses racines au Sénégal. Donc, il me fera plaisir d'être avec vous durant tout ce temps. Julien viendra, que vous avez entendu souvent, viendra me remplacer à certains moments durant le remplacement d'Abdou. Car je devrais m'absenter à mon tour, sûrement près du Grand Prix du Qatar. Donc, l'après-course Grand Prix du Qatar, ça devrait être Julien qui va le faire. Mais tout de suite, avant d'aller chercher le classement de ce Grand Prix qui a été quand même assez chargé, je vais rejoindre mon invité du jour, Jean-Sébastien Barbeau. Salut!
Salut Marc-André!
Comment ça va?
Ben, ça va bien, j'ai bien aimé le Grand Prix.
Trop fatigué là, parce que nous l'avons écouté en direct.
Moi, j'ai écouté en direct. Contrairement à toi, je me suis pas endormi, ce qui est, je pense, bon signe. De toute façon, c'était un bon Grand Prix, donc je comprends mal à part le fait que c'était tard. Donc, on salue tous les auditeurs australiens du Pacifique qui doivent subir des Grands Prix à des heures bien plus tard que nous, en plus, dans la nuit du dimanche au lundi. Mais non, j'ai bien aimé le Grand Prix. Puis encore une fois, Suzuka, terre de sacre.
C'est vraiment l'un de mes favoris. Grand Prix, oui, parce
c'est un de nos Grands Prix préférés, puis il faut en profiter parce que l'année prochaine, il n'y aura pas de sacre qui sera fait en 2024 à Suzuka parce que le Grand Prix sera au printemps. Dommage.
Il faut en profiter tout de suite. Allons tout de suite vers le classement au complet. Max Verstappen qui retrouve la victoire. Je ne pensais pas dire ça cette année, mais il retrouve la victoire avec une victoire quand même assez... importante, assez facile là, pour Max Verstappen qui a survolé Suzuka comme il l'avait fait en qualification avec son magnifique tour. Il est suivi de Lando Norris, McLaren qui n'a pas rien brisé sur le podium, n'a pas brisé le beau trophée. Est-ce que tu as pu remarquer quand il a embrassé le trophée, il y avait une petite animation, Jean-Sébastien?
Oui, c'est juste du touch. Hein. C'est pas les lèvres qui font en sorte qu'on reconnaît la couleur du drapeau. C'est programmé, ce truc-là, quelques secondes. C'est un gros pichet, ce truc-là. Là. On nous l'a survendu, là, mais il n'y a rien d'impressionnant dans ce trophée-là, on va se le dire.
Je le trouve quand même assez magnifique. Sinon, Oscar Piastri qui obtient son premier podium, une belle course de sa part, en fait une belle fin de semaine pour sa part. On va y revenir sans aucun doute. Suivi de Leclerc à la 4e position, Lewis Hamilton 5e, Carlos Sainz termine 6e. George Russell qui a voulu y aller d'une stratégie assez audacieuse se retrouve 7e. Alonso qui a eu des problèmes, on va y revenir également, mais disons qu'il s'est encore fâché auprès de ses ingénieurs, termine 8e, tout juste devant les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly qui complètent le top 10. Donc ce sont les Alpines qui obtiennent les derniers points. Encore une fois, Liam Lawson qui termine devant son coéquipier Yuki Tsunoda. Ils se suivent là, à la 11e et à la 12e position. Et puis, il reste tout simplement uniquement trois autres pilotes qui ont terminé la course. Donc, Guanyu Zhou, Nico Hülkenberg et son coéquipier Magnussen qui termine 15e. Donc, vous l'aurez compris, il y a eu quand même beaucoup d'abandons durant cette course. Alex Albon et son coéquipier Logan Sargeant. Lance Stroll, malheureusement, a dû également abandonner. Sergio Perez qui a eu une course lamentable. Et
abandonné deux fois.
Bottas. Abandon deux fois.
Deux abandons de Red Bull et c'est Verstappen qui gagne. Essayez de comprendre cette phrase-là.
On va avoir la chance de revenir sur la performance de Sergio Perez qui... je vais y revenir, j'allais dire quelque chose, mais avant, je vais te laisser, Jean-Sébastien, aller sur tes contre-performances, performances du jour et moments cocasses de cette course.
Ben, on va y aller avec le moment cocasse et c'est avec la personne de Sergio Perez qui revient en piste 25 tours après son premier abandon pour purger sa pénalité de 5 secondes pour... dépassement illégal dans la ligne des puits, enfin vitesse excessive dans l'entrée de la ligne des puits sous la voiture de la voiture de sécurité virtuelle. En fait, non, sous la voiture de sécurité, point, je m'excuse. C'est un petit peu mêlant, la situation qui s'est déroulée avec Perez. Donc, revient en piste après 25 tours pour justement servir sa pénalité, désolé du calque de l'anglais, là, mais vraiment pour purger sa pénalité, pour s'assurer que cette pénalité-là ne soit pas transportée à Qatar, contrairement à Logan Sargeant, qui lui a une pénalité de 10 secondes pour reconstruction d'une voiture, enfin alignement d'une troisième voiture selon les commissaires de course en raison de son important accident pendant les qualifs. Donc oui, c'est assez curieux, on n'a pas souvent vu ça en Formule 1, enfin moi je me rappelle pas d'avoir déjà vu ça en Formule 1. Mais ça fait partie des règlements. Il faut faire toutes les pénalités qui sont décernées. Donc, comme ça, Perez est propre pour le Grand Prix du Qatar. Contre-performance, Sergio Perez, encore une fois, l'ensemble de l'œuvre, touche Hamilton au départ. Ensuite, pénalisé pour son safety car infringement. On a juste déclaré comme safety car infringement. On a jamais vraiment expliqué pourquoi, à part sur une reprise, on a compris qu'il y avait une espèce de vitesse pour dépasser les voitures à l'entrée des puits. Ensuite, Perez touche, à quel tour encore, j'essaie de le retrouver, au 12e, rentre dans Magnussen à la pente, il l'a complètement enfourché, et puis abandonne au 15e. Donc tout ça, déjà, la course de Perez en 15 tours, c'est l'histoire de deux Grands Prix pour certains pilotes. Perez lui arrive à faire ça en moins d'une demi-heure et revient au 40e pour abandonner deux tours plus tard. Donc oui, c'est la contre-performance du jour. Performance du jour, Verstappen parce qu'il gagne un Grand Prix. Ah ah, c'est drôle. Non, peut-être Oscar Piastri, premier podium en Formule 1, c'est chouette. Oui, il semble avoir du talent. Peut-être George Russell, si la stratégie avait payé, mais non, ça n'a pas payé, puis je pense pas qu'il se gagne du capital sympathie avec les conversations radio qu'il y a eu pendant le Grand Prix.
Effectivement, ça a été un Grand Prix avec quelques échanges chauds là, entre plusieurs pilotes et leurs ingénieurs, dont Russell. Confrontation entre Hamilton et Russell également. C'est peut-être vu que tu as parlé de Perez, là, je vais peut-être y aller avec mon petit moment cocasse entre Hamilton et Russell. Je sens qu'il y a une certaine tension qu'il n'avait pas depuis le début entre les deux. Je ne sais pas si je extrapole dans ce que je ressens entre les deux, mais c'est un peu ce que je perçois, une certaine tension entre les deux. Il a failli avoir un accrochage là, au début du Grand Prix. Je pourrais retrouver le moment exact. Là, je l'avais noté. Je vais y revenir. Mais,
oui, quand Hamilton fait du hors-piste au 16e tour.
Exactement. Merci beaucoup de la précision. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a des tensions entre les deux. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer jusqu'à la fin. Parce que
ça allait de soi qu'il allait avoir des tensions dès le départ. Du moment que Russell est arrivé chez Mercedes, ça sentait que un veut montrer qu'il est meilleur que l'autre et l'autre est Lewis Hamilton. Donc, oui. C'est pas simple gérer ces deux pilotes-là, visiblement. Et George Russell le fait ressentir de plus en plus à chaque Grand Prix. Et là, je pense qu'on atteint un certain niveau. Là, je commence à trouver George Russell personnellement très désagréable.
On est un peu à la croisée des chemins, j'ai l'impression. Puis c'est pour ça que je l'ai mis comme moment cocasse, parce que je sens que peut-être Suzuka est un moment clé dans la relation entre les deux. On verra. De toute façon, on n'est pas là pour faire du drama. Non. Sinon,
un peu. Non, on va laisser ça à Netflix. T'as raison.
Ta contre-performance, je peux pas aller autrement que toi avec Sergio Perez qui continue de mal faire. Écoute, l'accrochage avec Magnussen me faisait tellement penser à l'accrochage qu'il avait eu lors du Grand Prix de Singapour avec Albon. Il arrive de très loin, vient percuter son adversaire tout juste devant lui, sans aucun rapport. Déjà qu'il est sur la sellette, ça a été déjà le officialisé par des conversations avec Christian Horner dans les dernières semaines, même dans les derniers jours, décrivant le problème de Red Bull comme étant un problème de riche en ayant trop de pilotes, trop de bons pilotes. On parle de Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo et bien sûr le jeune prodige, comme certains l'aiment l'appeler, Liam Lawson. Donc, écoute, je pense que Sergio Perez dans une mauvaise énergie. J'espère pour lui que ça va s'améliorer dans les prochaines semaines, parce que drôlement, je pense que Red Bull pourrait changer son baquet si jamais tout va mal jusqu'à la fin de la saison. C'est pas normal de gagner D'ailleurs, je ne l'avais pas mentionné, mais Red Bull ont gagné le...
Oui, le championnat de constructeurs, mais bon.
Le championnat de constructeurs, mais bon, je ne l'avais pas mentionné.
C'est une non-nouvelle. C'est comme la semaine prochaine, dans deux semaines, quand Verstappen va devenir champion du monde. Ça sera comme une non-nouvelle. Là. C'est attendu, c'est écrit dans le ciel.
Mais c'est quand même drôle, tu sais, de voir que...
Oui.
Capable de gagner avec pratiquement un seul pilote, bien que Sergio Perez soit deuxième au championnat des constructeurs, mais bon, vous comprenez, hein, c'est une saison difficile pour Sergio Perez, donc
ça non, va être contre performance du jour. Sur Perez, là, avant qu'on passe à ta performance du jour, qui sera, je le sais, Oscar Piastri, là, je le sais, là, c'est écrit dans le ciel aussi. Est-ce que le contrat de Sergio Perez est rachetable pour l'année prochaine? Est-ce que c'est une année d'option ou c'est une année ferme?
Ben,
tout se rachète par Formule 1, remarque, là, on est dans le sport professionnel, là, on est dans le sport le plus capitaliste du monde, donc tout se négocie, remarque, là, donc...
Je pense que c'est un contrat ferme, mais évidemment, comme en Formule 1, on l'a déjà vu, un contrat en Formule 1, ça n'existe pratiquement pas, hein. Donc j'ai l'impression que c'est une année ferme, mais c'est intensable.
Parce que je te soumets cette hypothèse-là, quelles sont les chances que 2024, l'alignement soit... Verstappen, Lawson et que Perez soit le deuxième pilote chez Williams.
Ça pourrait.
C'est intéressant, ça. deux anciens pilotes Red Bull chez Williams.
Et moi, je me demande si Red Bull n'ont pas appris pour ne pas aller trop vite avec un pilote. Tu sais, Alexander Albon, Pierre Gasly. Tu sais, Liam Lawson n'est pas prêt encore à se battre avec Verstappen, d'après moi, dans une voiture égale. Je demanderais un petit peu de patience. Mais évidemment, moi, ça se pourrait parce que la patience chez Red Bull n'existe pas. Fait qu'ils en ont plus non. Pour Perez. Ils vont aller vers ailleurs. Ailleurs.
Ouais, mais si ça ne marche pas avec Lawson, tu peux toujours aller en chercher un autre après. C'est pas grave. Il y en a toujours d'autres qui seront prêts pour essayer d'avoir le volant.
Et surtout que moi, je pense que nouvelle de Norris est. Ah, ça en vient. T'sais. J'ai l'impression que Norris s'en vient chez Red Bull dans quelques années. Pour compléter un duo infernal avec Max Verstappen.
De toute façon, ils ont pas besoin d'un deuxième pilote pour gagner, visiblement.
C'est vrai que ouais. Tu pourrais y aller avec Liam Lawson, lui donner ce petit cadeau-là, parce qu'encore là, on va y revenir, on va parler d'AlphaTauri, mais
oui.
Il a battu Yuki Tsunoda encore aujourd'hui.
Bon, allez, dis-moi que Oscar Piastri est ton pilote du jour.
Sans cachette, ce sera Oscar Piastri.
Wow!
Fin de semaine formidable pour lui. Malheureusement, je dirais qu'il n'avait pas le rythme pour supporter la pression que Lando Norris lui mettait durant la course. Il y a eu pour offrir la place à Norris durant la course parce que évidemment la voiture de Piastri ne lui permettait pas de suivre Max Verstappen, mais quand même,
non.
Quelle formidable course pour lui. Il obtient son premier podium, ça va lui faire du bien. On le disait. C'est vraiment important pour lui de prouver qu'il est un bon pilote après sa sortie publique là, en disant « Non, c'est pas vrai que je vais aller chez Alpine, ils m'ont maltraité, je veux aller ailleurs, je veux signer avec McLaren. » Pour l'instant, il est en train de le prouver. Un premier podium et sûrement pas le dernier pour Oscar Piastri. Allons tout de suite avec nos impressions de ce Grand Prix. Je te lancerai tout de suite sur... Bon. Évidemment, on n'a pas le choix d'en parler, même si c'est une non-nouvelle. Max Verstappen qui remporte ce Grand Prix. Vraiment, il l'a survolé, mais ça permet à Red Bull d'aller chercher un sixième titre. Quelle est, selon toi, l'importance de ce titre-là pour Red Bull en ce moment, alors que on savait que ça allait être une saison facile dans un sens, mais j'imagine que pour eux, ils sont quand même contents, là.
Oui, mais ça va de soi. On a vu les mécaniciens comment ils étaient contents d'avoir gagné le constructeur. Ça, pour le moral dans une équipe, c'est l'élément qui compte le plus qu'un championnat du monde de pilotes, je pense. Parce que c'est eux qui travaillent dur, c'est eux qui sont mal payés, c'est eux qui se tapent les heures, c'est eux qui volent en classe éco à travers la planète. C'est eux qui l'ont difficile. C'est pas le pilote, là, c'est vraiment eux. Donc ça, c'est très bien. Ils peuvent maintenant commencer à travailler sur 2024 totalement. Là, donc ça, c'est réglé. Enfin, après Qatar, visiblement, là, ils vont assurer le pilote. Mais bon, ça, c'est l'évidence même. Là. Mais oui, ils vont pouvoir asseoir 2024. C'est le début de la domination. Là. Lorsqu'on gagne un championnat avec plusieurs courses avant la fin du championnat, on peut préparer l'année suivante, ce qui nous permet d'avoir une longueur d'avance sur tout le monde. C'est sûr que tout le monde va commencer aussi à regarder 2024, mais il y a quand même une deuxième, troisième, quatrième place à assurer. Et cette année, contrairement aux autres années, savoir qui va finir deuxième, pas nécessairement facile. Qui va finir troisième, qui va finir quatrième, c'est pas facile non plus, parce qu'il y a une vraie lutte au constructeur. Il faut la surveiller, puis elle va se jouer jusqu'à la fin. Donc, il reste quand même 6 Grands Prix, dont 3 sprints. Donc, il y a des chances que le classement tel qu'il est actuellement change. Donc, il y aura cette dimension-là à regarder. Concernant Verstappen, sa course, oui, il a complètement dominé, sauf le premier virage au départ. Départ très moyen de Verstappen, dépassé à gauche et à droite par les McLaren, arrive à rester en tête, mais Piastri a quand même mené au premier virage le Grand Prix. Mais Verstappen, avec l'appui aérodynamique au deuxième virage, a pu reprendre le devant. C'est quand même assez impressionnant, cette voiture-là. Et après, a été en contrôle pendant tout le Grand Prix, à l'exception d'un moment au 14e tour, lorsque la voiture de sécurité virtuelle est entrée, est entrée en piste, on s'entend, elle n'est pas entrée en piste, mais lorsqu'elle a été activée, Piastri avait prévu s'arrêter au 14e, visiblement, a tiré un peu profit de la voiture de sécurité. Avec la voiture de sécurité virtuelle, c'est un arrêt de 10 secondes au lieu de 22, quand même, la pénalisation. Donc, il y a quand même 12 secondes d'avantage, mais c'est pas un vrai 12 secondes que Piastri a eu. Il y a un petit peu moins, peut-être 8, on n'est pas tout à fait certain. Donc, est-ce que pour Piastri, cette voiture de sécurité virtuelle, lorsqu'on regarde à l'arrivée, 36,4 contre 44 secondes, 8 secondes d'écart entre Piastri et Leclerc, est-ce que ça lui a assuré la troisième place? Peut-être. Et ça, c'est intéressant, mais bon. On pourra jamais vraiment totalement savoir. N'empêche, pour Verstappen, après ce petit incident-là, absolument rien. Russell lui a laissé la tête au 19e tour lorsqu'il est venu pour le dépasser, parce qu'il savait très bien que Russell ne pouvait pas se battre contre. Enfin, on lui a laissé comprendre qu'il ne pouvait pas se battre contre Verstappen. Et après, ça a été la claque. 19-3. Certains experts s'attendaient à 25, mais avec la voiture de sécurité au début du Grand Prix, peut-être c'est là que ça joue la différence, mais quand même. Il colle 20 secondes à la voiture la plus proche. C'est violent. Ça fait très mal. Ça fait très, très mal.
Surtout que c'est une réponse à une contre-performance à Singapour, même si on ne s'attendait pas à ce que la Red Bull soit exceptionnelle lors de ce Grand Prix. Je trouve que ça montre la domination totale de la Red Bull, cette réponse aux adversaires. Moi, j'ai noté que j'avais l'impression, on va peut-être y revenir également en parlant de McLaren, mais j'avais l'impression que Lewis a été un petit peu gentil au départ. Il avait un certain avantage avec Verstappen, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas voulu pousser au maximum pour aller chercher la première position. Peut-être qu'il a eu peur de peut-être s'accrocher, tout ça. Donc, c'est quelque chose que j'avais noté de quand même important dans cette course. En même temps,
ils sont deux contre un, donc tu as l'avantage de voir s'il y en a un qui a l'air d'être meilleur. On peut toujours se battre, donc... Peut-être qu'il était juste un peu plus stratégique. En même temps, il était un peu plus derrière, Piastri était mieux placé, plus intéressant de le laisser aller.
Et en même temps, je me dis aussi que, tu sais, ça fait très bien que même s'il dépassait lors du premier...
Non, au sujet du Grand Prix du Royaume-Uni, ça ne dure pas longtemps.
Exact. On s'attendait à ce que ce ne soit pas très long. Sinon, Max Verstappen, incroyable encore. Il survole, comme je l'ai mentionné, ce circuit à Suzuka. Il permet vraiment à Red Bull en ce moment complètement dominer le circuit et surtout le classement. Et comme tu l'as dit, c'est très important pour Red Bull parce que là, ils vont pouvoir se pencher sur la saison prochaine. On va avoir une domination encore plus grande pour Red Bull l'an prochain. Je ne le souhaite pas. Je souhaite évidemment qu'il y ait peut-être une meilleure parité, mais en même temps, on l'a à l'arrière, donc
Ouais, mais on aimerait ça que ça joue au dernier Grand Prix le championnat, tu sais, pas à 6 Grands Prix, à 7 Grands Prix de la fin. T'sais. On est le 24 septembre, le championnat pilote va se finir le 8 octobre, il reste encore 6 Grands Prix. En fait, ça risque de se finir un samedi.
C'est vrai.
Pendant le sprint, il faut juste une troisième place pour lui, pour Verstappen, puis il est champion du monde pilote. Ça, c'est triste.
Et c'est vrai que c'est triste. Max Verstappen ne sera jamais capable de gagner un championnat mondial.
Un dimanche,
normalement,
legit.
Un dimanche. Oui.
Parce que 2021, ça s'est joué sur des circonstances. On l'écoute maintenant. 2022, ça s'est joué dans une confusion où personne n'a compris les règles à part la FIA et la FOM. Donc, très bien pour eux. Pour une fois, c'est eux qui avaient raison puis c'est eux qui n'ont pas eu de problème. Cette année, ils risquent de gagner ça un samedi. Oh, quelle tristesse.
Il va devoir aller en gagner un autre normalement l'an prochain, je pense.
Ouais, mais je gâche pas dessus. Quand ça fait trois fois que t'arrives pas à en gagner un dimanche, là. Clean. Anyhow.
Puis, passons. On en a parlé un petit peu de Perez, là, mais j'aimerais juste y revenir légèrement. Qu'est-ce qui qui se passe selon... Tu sais, j'en ai parlé avec Anna Maria, là, mais qu'est-ce qui se passe dans le cas de Pérez selon toi? D'où vient cette inconstance? D'où vient ces problèmes? D'où vient cette saison de malheur?
J'ai envie de dire la malchance attire la malchance, mais bon, ça veut absolument rien dire, puis il n'y a aucune base scientifique qui le montre. La voiture, je pense qu'elle est faite pour Verstappen. Comme à l'époque de Ferrari, où on faisait une voiture pour Michael et non pour le numéro 2. C'est pareil ici. La voiture est faite pour Verstappen, et c'est tout. Après, la pression. La pression, t'arrives pas à te sortir d'un cercle comme celui-là et tu fais erreur par-dessus erreur, par-dessus erreur, par-dessus contre-performance qui fait en sorte que t'as l'air du... Ça doit être terrible pour Pérez de vivre ça aujourd'hui. Ça doit être super terrible. Je le plains. J'espère qu'il a un contrat assuré pour 2024 pour qu'il puisse faire le maximum d'argent pour qu'ensuite... Il n'y a plus de volants qui arrivent à être heureux dans tout ce qu'il va faire ensuite, mais ouais, qui en profite maintenant parce qu'on sait très bien que c'est rare qu'on choisit quand est-ce qu'on s'en va, et dans son cas, c'est peut-être pas lui qui va décider de s'en aller, c'est peut-être lui qui va se faire dire « tu t'en vas ». C'est vraiment difficile. Je trouve que Perez se fait pitié là-dessus.
Ouais, surtout que la situation a changé quand même drastiquement. Tu sais, c'est un pilote qui... Très bon deuxième pilote il y a à peine 10 ans. Tu sais. Il était acclamé par pas mal tout le monde, même s'il se faisait en même dépasser de manière assez souvent par Verstappen puis par des distances impressionnantes. On se disait, OK, ben regarde, Pérez a fait le travail, il a terminé deuxième aujourd'hui, a fait le travail.
Le ministre de la Défense mexicain, il est absent, là.
Exact, il a pris le bord.
Il a pris le bord.
C'est ça qui est triste, c'est la débandade complète chez Pérez. Mais moi aussi, c'est de ce côté-là que je me penche. La pression et surtout la pression de devoir performer dans une voiture qui n'est pas adaptée pour lui. Écoute, je pense qu'il va devoir effectivement en profiter des derniers moments qui lui restent. Est-ce qu'il peut profiter même encore en ce moment? T'sais, moi, je me dis, l'année prochaine, ça va être... Même s'il est dans la Red Bull, je sens que ça va être une année horrible pour lui. Dans son sentiment personnel, dans ce qu'il ressent, parce que il sait très bien ce qui lui attend. Il va se faire encore dominer par Verstappen. Il va devoir encore essuyer les critiques, essuyer les revers. Donc,
on dit ça, mais je vais être son avocat du diable pour le défendre. Je vais te dire, c'est quand même le pilote après Verstappen qui a gagné le plus de Grand Prix cette année. Il en a deux.
Il en a deux, puis... C'est aussi
c'est ça qui a gagné deux grands prix minimum.
C'est aussi le pilote qui s'approche le plus actuellement dans les anciens coéquipiers de Verstappen le plus de lui, malgré la distance. Et c'est quand même lui qui a tenu Verstappen le plus. Donc,
mais c'est parce que Verstappen s'est tellement plus amélioré que la claque a l'air encore plus grande. Mais si on avait un Verstappen de, je sais pas, 2018 ou 2019, ouais, là, Perez, il serait vraiment... On dirait, oh, quel talent, Perez. Ou Verstappen, comment il est mauvais, il y a de la misère avec Perez. Alors que là, Verstappen est tellement fort et tellement talentueux que n'importe qui a l'air assez mauvais comparativement à lui.
Peut-être un dernier point de mon côté, ce que je remarque également, c'était aller relire des articles hier en pensant à Perez, puis arriver dans une énergie vraiment conquérante cette année. Je veux gagner le championnat des pilotes. Je sais que je suis capable d'aller le chercher. J'ai l'impression que l'an prochain, il n'est pas capable d'avoir cette énergie de conquérant-là.
Non. Puis ça rappelle exactement Valtteri Bottas qui disait ce genre de truc-là dans les meilleures années d'Hamilton. « Oh, je me bats pour le championnat cette année. » Qui le croyait?
Pour lui.
À part lui, sa blonde et ses amis proches, personne ne croyait. Personne ne croit. Checo Pérez, il dit « Oh, je me bats pour le championnat cette année. » Oui, tu le dis parce qu'il faut le dire.
Maintenant...
Parce que même Alex Albon dit « Je me bats pour le titre. »
Oui, c'est vrai.
Obligé de le dire.
Il y a juste Yuki Tsunoda qui dit qu'il va ouvrir un restaurant.
Sérieusement, tout le monde le dit, mais c'est parce que c'est obligé de le dire. C'est des phrases comme ça. C'est comme une Miss Monde qui dirait « Je veux la paix dans le monde ». Évidemment. Ouais. C'est des phrases clichés qui veulent absolument rien dire.
Maintenant, un qui veut probablement gagner un jour le championnat du monde, probablement, et peut-être qui réussira. Lando Norris, Oscar Piastri terminent 2 et 3. Belle course de leur part. J'ai craigné à un moment dans la course qui se fasse avoir par la stratégie de Russell et de Mercedes. Finalement, on connaît le résultat. Là. Ça a été quand même un podium pas facile dans le cas des deux, mais je pense assez solide. Il y a une statistique qui m'intéresse en ce moment. Dans les 8 premières courses de Norris, il avait 12 points. Maintenant, il est rendu à 103 dans les 8 dernières courses. Donc, c'est vraiment une évolution incroyable de la part de McLaren. On reprend la même chose avec Piastri. Il avait 5 points dans les 8 premières courses. Il est rendu avec 57 dans les 8 dernières. Donc, c'est assez hallucinant la transformation de cette voiture. J'ai l'impression qu'ils vont pouvoir bâtir également sur cette amélioration pour l'an prochain. J'ai eu l'impression qu'on a dit la même chose l'an dernier, donc j'ai très hâte de voir l'évolution de cette voiture l'hiver prochain. Mais qu'est-ce que tu en dis de cette course-là aujourd'hui,
Sébastien? Et on a dit ça de l'évolution de l'année précédente, et ça a été une catastrophe la 2021 à cause du marsouinage. Enfin, 2022, c'était une année catastrophique, mais à chaque année, on se dit le temps, c'est l'année de rédemption pour McLaren, parce que ça s'est bien passé l'année précédente, ça va bien aller cette année. Donc, j'ai pas envie de le dire parce que j'ai l'impression que, par malchance, ils vont avoir une voiture médiocre l'année prochaine. Ouais, la voiture est complètement transformée. C'est pas les pilotes qui sont si bons que ça. Oui, ils sont bons, mais la voiture s'est tellement améliorée. Elle est actuellement la deuxième meilleure voiture du plateau, visiblement. Là, si on recommençait les classements depuis les vacances, je pense que c'est eux qui seraient deuxième là, et clairement bien placés en deuxième position. C'est assez difficile cette année de déterminer qui est la deuxième meilleure voiture parce que, en raison des phases de la saison, comme la saison est tellement longue, comme il y a tellement de grands prix, c'est difficile à évaluer. N'empêche, super course de Norris, peu de choses à dire, il n'y a pas vraiment fait de faute. Piastri, on pensait que oui, en raison de Russell qui a fait un arrêt, stratégie assez osée. Pendant 15 tours, on a pensé que Russell allait être. Pendant 13 tours, en fait, on pensait que Russell allait être un danger. Puis finalement, quand Norris a dépassé Russell au 38e, on a très bien compris que Russell n'était pas un danger. Il était, comme on dit, un sitting duck. Là. Il était une chicane un peu mobile. C'était assez difficile. C'est un peu dommage pour Piastri qui s'en sort bien, comme j'ai mentionné. Il aurait peut-être pu finir 4e, n'eût été de la voiture de sécurité virtuelle, parce qu'il a gagné quelques secondes. Leclerc, je ne sais pas s'il aurait été capable de le dépasser, peut-être pas, enfin, on ne le saura jamais comme j'ai mentionné, mais bon, premier podium pour Piastri, c'est super. Franchement, c'est super pour lui. Ça a bâti une confiance. Norris aussi. Mais ouais, cette victoire-là pour Norris, là, ça va être difficile pour lui d'aller la chercher. Il va vraiment falloir que Verstappen ait un problème pour qu'il puisse aller la chercher, parce que en piste, en conditions réelles, sans problème, c'est pas aujourd'hui que McLaren gagne une course. Et puis avec les Grands Prix qui restent, peut-être le Brésil. L'année passée, c'est là où Mercedes avait pu gagner son seul Grand Prix. Peut-être que là au Brésil, on sait que la Red Bull est pas si bonne. Ça rappelle un peu Singapour. Donc, ça sera regardé le 5 novembre. Mais a priori, les autres Grands Prix, Qatar, Austin, Mexique, Vegas et Abu Dhabi, ça devrait être facile pour les Red Bull. Peut-être un peu plus difficile pour McLaren, mais non, n'empêche, c'est une très très bonne course de façon générale.
Effectivement, tu sais, quand je regarde un peu la course, je regardais les commentaires d'après-course, Piastri disait que c'était pas sa meilleure course de sa carrière, du moins de la saison, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il a tout fait ce qu'il devait faire. Tu sais, un podium, a réussi à tenir quand même le rythme avec Norris. J'ai pas trop compris également pourquoi il n'avait pas le même rythme que Norris. Ça, j'aurais aimé ça l'avoir en commentaire, mais j'ai pas trouvé de commentaire.
Ouais, parce que l'écart à la fin, juste pour mettre en contexte, Norris finit à 19 secondes 3 de Verstappen, Piastri termine à 36,4 de Verstappen. Il y a quand même 15 secondes.
Exact. Puis je me rappelle que lorsque Norris a passé devant Piastri, décision d'équipe, l'avance de Norris s'est accentuée rapidement aussi. Donc, Et j'espère avoir peut-être une conclusion et des réponses à ma question dans les prochains jours. Mais on y reviendra peut-être lors du prochain épisode de jeudi prochain, si jamais on a une réponse. Mais en général, très satisfait de la course des deux. Lando Norris, encore une fois, a fait une très belle course, a fait le travail, aucune faute. Le fait que toute écurie aime, je trouve, d'un pilote, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus agressif, je l'ai mentionné tantôt lors du départ, mais comme tu l'as dit, peut-être que c'était une stratégie d'équipe. Il voyait que Piastri était en bonne posture, n'a pas voulu trop attaquer, peut-être qu'il craignait aussi un accrochage avec Max Verstappen. Quoique Max a un petit peu changé, c'est moins pire qu'il y a quelques années. Donc, en plus, il avait dit en commentaire d'avant-course, il faut absolument qu'on soit premier pour mettre notre stratégie en place pour tenter d'essayer de battre Max, parce que si jamais il nous dépasse dès le premier tour, c'est terminé. Donc, j'aurais cru justement que Norris mette un petit peu plus de pression, mais somme toute, c'est juste ça le problème. C'est parce qu'il n'y en a pas. Excellente course de McLaren et de Norris et Piastri. Maintenant, passons, j'irais peut-être avant de parler de Ferrari, avec McLaren, c'est eux qui auraient pu voler le show. qui aurait pu voler le show, disons, le voler le spectacle avec une stratégie audacieuse de Russell, pardon. Stratégie que j'avais pas vu venir.
Personne ne l'avait vu venir, un arrêt. Le un stop n'était pas envisageable.
Exact, dans ma tête, c'était
la chaleur du jour.
Et ils l'ont tenté quand même. Je trouve que c'était une stratégie intéressante. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi. A failli fonctionner, même si le résultat est assez flagrant. Là, il termine en 7e position, mais j'ai l'impression que ça a quand même passé proche de fonctionner.
Oui, ça a passé proche de fonctionner. C'est à la fin de la course. Mercedes essaie de faire un Carlos Sainz, un Sainz sling, si on peut dire, en appliquant la stratégie un peu d'Alain Prost où on gagne un Grand Prix en roulant le moins rapidement possible. C'est un peu ça. Donc, de trouver des façons de pouvoir donner le DRS à son coéquipier pour pouvoir le défendre face à l'autre pilote, donc en ayant un DRS, parce que l'autre derrière aussi a le DRS, donc il ne peut pas vraiment le dépasser parce que les effets s'annulent. C'est plutôt intéressant. Ça n'a pas vraiment fonctionné et ça semble pouvoir créer beaucoup de tensions. Sur les fils de presse, on voit ce matin qu'il y a des tensions chez les pilotes alpines en raison d'un inversement des pilotes à la fin du Grand Prix. Franchement, pour un point de plus, c'est une dispute dans un verre d'eau, là, mais chez Mercedes, ça semble plus grand. En tout cas, du côté de Russell, ça semble être vraiment un point significatif. On pense qu'on a mal fait la stratégie. Enfin, on est très frustré. Hamilton semble être plutôt déçu de la stratégie parce qu'on pense que la 5e et la 6e place auraient pu être faites. Sans doute, peut-être que le switch n'aurait pas dû être fait et essayer de le tenter, mais... Excuse-moi, je suis en train de perdre la voix. J'ai un chat dans la gorge. Donc, ça semblait vouloir fonctionner, mais oui, ils l'ont pas fait. Est-ce qu'ils ont collé chicken? Difficile à dire. C'est mon sentiment, parce que visiblement, ça avait l'air de marcher, puis à trois tours de la fin, on fait le switch. Ouais, c'est un peu dommage, mais Sainz, quand il a dépassé Russell, on l'a vu, Hamilton n'avait pas pu offrir le DRS à son coéquipier en raison d'une mauvaise traction à la sortie du dernier virage de Russell. Donc, je pense que juste les pneus étaient juste détruits, tout simplement. On cherche une excuse stratégique du côté des pilotes alors que le pneu était juste trop usé, malheureusement.
Ouais, puis je pense que également ce que Hamilton disait, c'est qu'il avait l'impression qu'il y avait un petit peu de dégâts sur son aileron juste après le départ. Quand les roues se sont touchées, qu'il a percuté tout ça, il a eu l'impression que sa voiture ne tournait même pas dans l'épingle. Ce qui est une très mauvaise nouvelle quand même pour un pilote à Suzuka. Ça va quand même assez rapidement dans cette épingle.
Sa voiture ne tourne pas l'épingle, mais par contre, il te fait un dépassement d'anthologie sur Alonso au 130R. Donc, c'est relatif.
Merci de la précision. J'y avais pas pensé à celle-là.
Donc, je trouve ça un peu relatif quand même. Là. Donc, mettons en contexte que quand même, Hamilton s'est fait un super dépassement à fond, sans enlever le pied dans 130 R à l'intérieur sur Fernando Alonso. Ouais, la voiture tournait bien quand même.
Donc, mais c'est ça, je
il y a
pense
des choses dans la vie que j'ai envie de faire, là, 130 R à fond, là. Jamais.
Moi non plus, je pense.
Non. Non, j'ai pas envie de faire un Alex McNish de moi-même.
Tu sais, globalement, je pense que aimer la. Justement, que Mercedes ont tenté d'amener dans cette course un petit peu de croustillant. Je pense que c'était une bonne stratégie. Malheureusement, ça s'est pas complété. Je pense également que réellement, il avait une possibilité pour Hamilton d'aller chercher si la stratégie X aurait fonctionné, chercher la quatrième position, même s'il a l'impression que sa voiture, justement, ne tenait pas, ce qui ne lui permettait pas d'aller chercher cette voiture. Mais c'est dommage parce que je pense vraiment que Mercedes était dans une bonne forme quand même en fin de semaine, malgré un départ, si je me rappelle bien, à la 7e et à la 8e position pour les deux.
Exact, 7 et 8.
Quand on regarde le résultat final, je pense que ils doivent être quand même satisfaits du travail accompli aujourd'hui, malgré que la 6e position de Russell aurait pu également être possible si la stratégie avait fonctionné. Globalement, ils vont pouvoir se retourner vers l'autre Grand Prix. Puis, cette voiture-là continue à évoluer, même si les évolutions sont terminées. J'ai l'impression qu'on une constante progression. Ça a été un début de saison difficile pour les deux. Maintenant, se retrouvent quand même en bonne posture. Hamilton ne sera jamais satisfait d'une 5e position, mais il doit commencer à apprendre à être 5e. Puis actuellement, je le trouve quand même dans un, désolé de l'expression anglaise, mais dans un bon mood, malgré les tensions entre lui et Russell. J'ai hâte de voir justement cette relation, comment elle va se peaufiner. Parce que pour l'instant, je sens que ça va tourner mal. On a failli voir un Rosberg-Hamilton lors des premiers tours. Là. Tu penses que tu m'as dit au 16e tour. Donc, ça m'inquiète.
Oui. Ça va arriver. Si on le sait, ça va finir par arriver à notre plus grand bonheur parce que c'est toujours chouette de voir quand même du drama de cet ordre-là arrivant en Formule 1, ce qui va être vraiment intéressant jusqu'à la fin de la saison. Là. Il y a encore beaucoup, beaucoup de points disponibles. McLaren Ferrari, pour la bataille pour la deuxième place des constructeurs, c'est 20 points. Et là, au différentiel, si on regarde vite, là, Leclerc finit 4, Hamilton 5, Carlos Sainz 6, Russell 7. Ça veut dire qu'ils sortent avec 15, 12, 10, 2, plus 4. Donc, ils font un différentiel de plus 4 à leur avantage. S'ils vont chercher 4 points à chaque week-end jusqu'à la fin du championnat, c'est Ferrari qui est devant pour la deuxième place. Cette bataille-là, cette stratégie-là, n'impacte pas juste ce Grand Prix-là sur les décisions stratégiques. Ça peut impacter la deuxième place aux constructeurs d'ici la fin de la saison. Ça va être super intéressant de surveiller cette bataille-là. C'est une bataille qui est intéressante parce qu'elle n'est pas pour la deuxième ou troisième place dans un Grand Prix. Elle va être davantage pour une quatrième, cinquième place lors des Grands Prix. C'est ça qui va être intéressant parce qu'on suppose que McLaren est actuellement la deuxième meilleure voiture. Donc, ça va être intéressant de voir des bons points se disputer pour une deuxième place au championnat. Donc, ça va jouer sur des très petits points jusqu'à la fin du championnat. Ça va être super excitant, cette bataille-là.
Ou ça va se jouer sur l'une des deux écuries qui réussit à battre McLaren lors d'un Grand Prix, peut-être. Parce que
oui,
on leur
façon,
donne une meilleure position exacte.
Façon Singapour.
Exact.
Ouais.
Je pense vraiment que quand on regarde ben, un petit peu exactement, je pense que Leclerc Carlos Sainz l'a bien montré. S'ils réussissent à battre McLaren, ce qui serait quand même un objectif faisable.
Oui.
Je ne pense pas que de mettre la barre trop haute en battant Red Bull, ce soit logique.
Non, non.
Mais d'aller chercher McLaren actuellement, la distance n'est pas si grande. Je pense que l'écurie qui va réussir le coup d'éclat jusqu'à la fin va probablement prendre la deuxième position. Oublie, c'est payant pour une écurie de terminer deuxième.
Deuxième, oui. Donc, c'est pour ça, moi, mon sentiment, j'ai l'impression que Ferrari va être capable de finir deuxième. Je pense qu'ils ont le momentum. Je pense qu'ils ont une assez bonne voiture pour aller chercher les 20 points de différence parce qu'il reste quand même plus de. Ben, il reste 6 courses plus 3 sprints. Il reste énormément de points encore disponibles. Je pense qu'il y a assez de performance pour aller chercher la deuxième. Malheureusement pour McLaren, comme ils sont tellement loin, ils sont à 172 points, donc ça veut dire qu'ils sont à 135 de Mercedes. Ils n'auront pas le temps d'aller chercher ces points-là pour finir deuxième. Mais je pense que Ferrari a des sérieuses chances de pouvoir finir deuxième. C'est ça qui est intéressant. C'est une sacrée bataille à voir. La caméra, on va voir souvent sur Verstappen et beaucoup plus sur ceux-là. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Le découpage télévisuel, le choix éditorial s'est fait beaucoup là-dessus. On n'a pas beaucoup vu Verstappen pendant le Grand Prix. Ça dit quelque chose.
Effectivement. Puis tant mieux.
Tant mieux.
Suivons les vraies batailles en ce moment. C'est ça l'important. Ouais. On peut voir Verstappen au début, puis on peut le voir à la fin. C'est grave si on ne le voit pas après. C'est pas si important. Puis franchement, si je peux revenir sur ton point d'avant, je vais essayer d'aller réécouter notre épisode de mi-saison. Il me semble que j'avais dit que c'était pratiquement impossible que je vois Ferrari revenir de l'arrière et aller chercher Mercedes. Est-ce qu'ils vont me faire mentir? Peut-être.
Allez, ça serait chouette. Juste pour voir Ferrari réussir. Quand Ferrari réussit, généralement, il y a quelque chose qui est assez positif en Formule 1. Donc, je ne suis pas nécessairement un ferrariste, mais voir Ferrari gagner, il y a toujours quelque chose de positif dans cette histoire-là.
Il y a effectivement quelque chose qui vient chercher les tifosi, qui vient chercher les fans de Formule 1. Lorsque Ferrari remporte un Grand Prix ou même tout simplement la deuxième position, allons-y aussi simplement. Parlons justement de Ferrari. Qu'est-ce que tu as pensé de leur course globalement? Carlos Sainz qui termine sixième, Leclerc qui termine quatrième, des points importants. Tu l'as dit, ils sont plus quatre à ce moment dans la course d'aujourd'hui au Japon. C'est une écurie que j'ai l'impression que je n'ai pas vu beaucoup dans le
coupage. C'est ce que j'ai dit.
Ils ont fait une course sans faute.
Oui,
ça a payé.
Ils ont fait la course qu'ils devaient faire. Franchement, j'essaie de regarder, là, à part la situation où Sainz a fait des dépassements à la fin. Là,
j'ai très peu de notes. Note exact.
Non, moi, c'est pas que j'ai très peu de notes, j'ai aucune note sur eux. C'est une course qui s'est bien passée dans l'ensemble. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils ont fait les résultats. Leclerc est parti quatrième, a fini quatrième. Sainz est parti sixième, a fini sixième.
Là.
Donc, ils ont pu rattraper par rapport à la Mercedes. Donc, ça veut dire que la Ferrari en qualification est sans doute un peu plus faible que la Mercedes, même si Mercedes a une qualification de misère, selon les dires d'eux, parce qu'ils se sont améliorés. C'est les abandons, en quelque sorte, aussi, qui ont aidé à s'améliorer pour Sainz et Leclerc. Mais quand même, part quatrième, finissent sixième, il n'y a rien à dire. Tout s'est bien passé pour eux.
Exact. Puis, je suis content de voir Leclerc terminer devant Carlos Sainz. Être une réponse totale à la victoire de Carlos à Singapour. J'ai l'impression que ça, c'est un petit velours dans son comportement et disons dans sa confiance pour Leclerc de finir quatrième. Une belle course globalement, même si, comme tu l'as dit, il n'était pas complètement satisfait de la qualification. Mais je pense que quand tu es capable de transposer les résultats d'une qualification à la course, c'est très positif pour une écurie comme Ferrari. Là.
Avant le Grand Prix, je terminerai là-dessus pour Ferrari. Sky Sports avait parlé avec Fred Vasseur et on lui avait demandé par rapport à un résultat, qu'est-ce qu'il en pense. Il dit ben, la difficulté, c'est qu'il y a toujours un des deux pilotes qui sera insatisfait parce qu'il y aura terminé derrière l'autre. Aujourd'hui, je pense que les deux pilotes sont satisfaits globalement quand même. Il n'y a pas de frustration. Leclerc ne pouvait pas vraiment se battre avec les McLaren, sans doute un peu frustré de la voiture de sécurité virtuelle et des circonstances, parce qu'il aurait été sans doute été un peu plus proche, aurait peut-être pu se battre pour la troisième, n'empêche. Sainz a fait le dépassement qu'il devait faire pour aller chercher la sixième sur Russell. Donc je pense que les deux sont contents. Je pense que Ferrari et Maranello sont contents aujourd'hui. Je pense que pour une fois, oui, deux pilotes peuvent être satisfaits de leur Grand Prix, même s'ils n'ont pas gagné le Grand Prix.
Complètement d'accord. Je pense effectivement que Ferrari doivent se ressortir contents. Puis je pense qu'ils vont pouvoir, je pense qu'ils vont pouvoir construire sur ça et s'en aller dans une belle énergie au Qatar. Ça fait quand même deux courses de suite. Ça va bien quand même chez même trois. Là, parce que quand
même Monza, ça s'est bien passé.
Monza, ça s'est bien passé. Une troisième puis une quatrième position pour Sainz et Leclerc. Donc, globalement, vraiment pas à être contre la vertu d'avoir des bonnes performances présentement chez Ferrari. Quelque part où ça va moins bien, où on est quand même été chercher des points, on va parler d'Alpine un petit peu. on termine 9 et 10, Ocon devant Gasly. Alpine qui assume la consigne d'équipe donnée à Pierre Gasly de rendre sa place à Esteban Ocon. Disons que ça n'a pas fait grand plaisir à Gasly de devoir laisser sa place.
Ouais, j'ai envie de lui dire grow up, c'est l'histoire d'un point. C'est pas comme si c'était une victoire face à une deuxième position qu'on demande de faire le switch. C'est, on inverse l'ordre des pilotes pour une neuvième position. Une neuvième place, ça donne deux points. Une dixième place, ça donne un point. Fin de l'histoire.
C'est plus dans le...
Je comprends parce que symboliquement, tu veux finir devant ton coéquipier. Certes. Mais who cares? Qui dans 15 ans va se souvenir? Ah oui, le fameux Grand Prix du Japon quand Alpine a demandé à Ocon de laisser passer Gasly.
Sure.
Ou plutôt, on a demandé à Gasly de laisser passer Ocon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un détail.
T'sais, moi, c'est plus dans le fond. J'ai l'impression que... Déjà que je n'étais pas complètement en confiance avec ce duo. On connaissait leur tension intérieure, tout ça. Là, Bruno Famine, qui est le directeur de l'écurie Alpine, qui vient dire « Oh non, on n'a pas de problème entre nos pilotes. » J'ai l'impression qu'il y en a un caché un petit peu par des bonnes performances quand même d'Alpine dans les derniers Grands Prix, même cette saison, globalement, même si c'est pas parfait, c'est pas catastrophique pour Alpine. Moi, je m'attendais à une saison bien pire pour l'écurie française. Pas de problème entre les pilotes, on dirait que j'y crois pas.
Je suis pas tout à fait ton avis. Moi, je crois que ça va bien. C'est la gestion au quotidien et de façon générale, le plan, ce qu'on appelle dans le soccer le projet sportif, là, qui est une catastrophe chez Alpine. On a viré tellement de gens au Grand Prix de Belgique. Pourtant, cette voiture fonctionne et on semble vouloir virer des personnes pour les mauvaises raisons. C'est un cauchemar dans cette équipe-là, mais je pense que le duo est bon. Les pilotes répondent bien, mais bon, il faut régler les problèmes, mais ça se déroule à d'autres niveaux. C'est pas dans le quotidien où on les mécaniciens travaillent sur les voitures. C'est pas tant il y a des fautes. C'est pas comme les erreurs à la Ferrari, là. D'un point de vue administratif et d'un point de vue de gestion, il y a un manque de leadership. Ça se fait sentir. Peut-être que s'il y avait eu un meilleur leadership, peut-être que le message serait mieux passé ici. Donc, ce que tu décris, j'ai l'impression, est davantage un symptôme qu'une réelle maladie. On est vraiment sur du circonstanciel ici en raison de ce qui se passe dans l'équipe.
Oui, je comprends ton point de vue. Oui, j'avoue que quand tu regardes... quand tu regardes en haut, ça va mal. C'est vrai qu'en bas, ça peut aller mal, quand en haut, ça va mal.
Oui, quand une mauvaise organisation est mal gérée, tout descend ensuite.
Ouais, t'as pas tort. Écoute, on va pas aller plus en profondeur avec Alpine. Ça a été une course globalement correcte, sans plus. Écoute, j'ai pas noté beaucoup de choses sur eux.
J'ai rien. À part le double dépassement sur la ligne droite là, par Hamilton au 21e, 22e, là, mais sinon, c'est tout.
Exactement. Donc, on va passer assez rapidement sur Alpine. Je me dirigerai maintenant vers Aston Martin. Alonso termine à la 8e position. Donc, il y a eu encore des tensions entre lui et son ingénieur. Tu l'avais mentionné, c'était la première fois à Singapour qu'il en avait depuis le début de la saison. Là, on sent la pression. Des évolutions qui n'ont pas fonctionné commencent à peser un peu sur Aston Martin, en plus de l'abandon, malheureusement, de Lance Stroll au 21e tour, si je ne m'abuse, en raison d'un problème mécanique.
Non, aileron arrière endommagé.
OK.
Aileron endommagé parce qu'il a trop passé sur les vibreurs. Ouch.
Ouch, c'est vrai.
C'est un problème structurel.
J'avais noté également qu'Alonso avait été averti d'être prudent sur les vibreurs, ouais. Donc tu as complètement raison. Et c'est le Alonso des beaux jours qui revient? Ou
Oui, c'est ça. C'est Fernando Alonso, bien Fernando Alonso. Donc, quand ça va bien, parle de la pluie et du beau temps, parle de comment il essaie d'aider Lance, il demande comment il va parce que je le vois sur l'écran. Quand ça va mal, c'est GP2 Engine, c'est karma, c'est tout ce que tu veux. Donc, oui, il faut prendre Fernando Alonso comme il vient. C'est franchement désagréable. Mais quand même, il finit à 75 secondes de la tête. sachant qu'en début de saison, il pouvait finir, je regarde le premier Grand Prix, Bahreïn, il a terminé à 35, donc il a un recul net de 40 secondes. Tu es là déjà. Commence 10e, finit 8e, était un peu dans la bataille, on pensait qu'il pouvait résister au Mercedes, finalement non, il s'est fait manger tout rond. On l'a vu, j'ai mentionné le fameux dépassement 130R au 21e tour par Hamilton, et puis après, sans doute dû lever... le pied de la pédale d'accélérateur en raison des problèmes d'abandon causés par Lance Stroll. On a supposé que les problèmes pouvaient être similaires sur la voiture d'Alonso. Donc, ouais, week-end de misère, surtout pour Lance Stroll qui arrive même pas à sortir de Q1. Franchement, là, c'est ordinaire. C'est franchement ordinaire. Cette voiture-là a complètement arrêté d'évoluer. C'est curieux parce que l'année passée, elle était une catastrophe en début de saison. Puis au milieu de la saison, elle est devenue, ma foi, excellente. Et enfin, excellente, on s'entend. Là, quand on commence dans les bas-fonds, on peut pas avoir la meilleure voiture du plateau. Là, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors que là, on partait clairement comme la deuxième meilleure voiture. Puis là, on a du mal à se battre contre Alpine. Ça dit tout. Et aux constructeurs, lorsqu'on regarde le classement, Aston Martin est quatrième et ils vont se faire dépasser par McLaren d'ici la fin de la saison. Il y a 50 points d'écart, puis clairement, McLaren va être capable d'aller les chercher ces points-là et ils finiront quatrième. Donc, c'est une vraie claque quand même. C'est une vraie claque pour Aston Martin. J'espère qu'ils préparent quelque chose de gros pour 2024.
L'espère aussi parce que, puis quelque chose qui va se tenir durant la saison. Bien beau de commencer en force, t'es pas capable de finir et c'est une claque dans la face, comme tu l'as dit. Également, écoute, c'est beaucoup de budget qu'ils vont perdre en raison d'une voiture qui n'a pas été capable justement d'aller chercher le plein potentiel. Même du côté des podiums, ça reste que, encore aujourd'hui, quand tu regardes le final, Aston Martin qui a le plus de podiums après Red Bull. Et encore là, je pense que ça va changer. Est-ce que ça va être McLaren qui va aller chercher ce titre honorifique? Peut-être. Malgré que Mercedes en a six présentement, je pense que globalement, ils vont devoir, comme tu l'as dit, préparer quelque chose d'énorme. Parce que, est-ce que ça va passer par, malheureusement, le départ de Lance Stroll, peut-être? Je n'y crois pas que papa est là. C'est peut-être la première fois que je dis ça, mais je pense qu'il va y avoir des changements dans cette écurie. Enfin, je le souhaite. Jusqu'à quelle échelle, je sais pas. Et c'est dommage. Je pense que je savais que ça allait pas tenir jusqu'au bout, mais je pensais pas que la dégringolade allait être aussi grande. Je m'attendais pas à ce qu'Aston Martin termine nécessairement deuxième après leur début fracassant. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils descendent quatrième.
Faut considérer aussi le fait qu'Aston Martin a mis beaucoup d'argent cette année dans le développement d'infrastructures du côté de Silverstone où l'équipe loge. Et les finances du groupe Aston Martin, pas juste l'équipe de Formule 1, le groupe Aston Martin n'est pas à son meilleur, mais vraiment pas. C'est une équipe qui... c'est une entreprise qui perd de l'argent, visiblement, en ce moment. Et la question, je pense qu'elle devient maintenant légitime. Est-ce que Lance Stroll est utile? Et la question à se poser, c'est est-ce que Lance Stroll nuit ou aide à l'essor du groupe Aston Martin?
Une bonne question. Le silence voulait tout dire.
Oui, c'est ça. Et là, en ce moment, si on dit que Sergio Perez est sur la sellette, pour une décision business, pour une décision d'affaires, Lawrence Stroll doit se demander est-ce que Lance Stroll est toujours... permet de contribuer à l'essor du groupe Aston Martin.
Exact.
Puis s'il arrive à répondre à cette question-là, on saura quel est l'avenir de Lance Stroll. Actuellement, visiblement, la réponse est oui parce qu'il garde. Mais il y a beaucoup de gens qui diraient sans doute non, puis il faut le remplacer par quelqu'un d'autre. Qui? Bonne chance, parce que les contrats, c'est à partir de 2025 qui vont s'ouvrir. Donc, il y a à peu près aucune possibilité pour l'année prochaine. Mais pour 2025, il y aura, je pense, un gros changement. Là. Je pense que la saison folle aura vraiment lieu. Et il y aura peut-être des changements chez Aston Martin, visiblement. Parce qu'Alonso, en tout respect, c'est pas l'avenir de la Formule 1, là.
Non, effectivement.
Et Lance Stroll ne semble pas être l'avenir de la Formule 1. Au regard de ses performances et depuis le début de sa carrière de Formule 1, là, on va se le dire, il répond pas aux attentes. S'il n'était pas Lance Stroll, s'il s'appelait Lance, je sais pas, Fortin, là, en tout respect, Ça ferait longtemps qu'on ne le verrait plus en Formule 1.
Bon, Lance Fortin, je pense.
Ben, appelons-le, je sais pas, Lance Sale. Il serait parti depuis longtemps.
Je regarde aussi le problème chez Aston Martin. Tu sais, on peut dire, il y en a plusieurs qui vont dire, c'est terrible que Lance Stroll soit encore en Formule 1, il ne donne pas les performances voulues, tatata. Oui, mais il n'y a pas de pilote. Techniquement, ils n'ont pas de réserve. Il y a Dragovic.
Non, c'est pas l'avenir non plus. C'est pas les gros chars.
À un moment donné, il faut se remettre en contexte. Ils n'ont pas de filière.
Non.
Ils n'en auront probablement jamais.
Mais ça, c'est le gros problème d'Aston Martin, oui, parce que toutes les autres équipes ont des filières, même Alpine a une filière.
Même Alfa Romeo a une filière.
Oui.
Pour cher actuellement, tu sais.
Oui. Alors que Aston Martin n'en a pas, et c'est pas facile de construire d'un coup que quelque chose arrive. Parce que Dragovic, il va pas sauver l'équipe.
Oh, puis Aston Martin sont toujours à la merci des décisions des autres écuries. Ou d'une décision d'un pilote comme Alonso de quitter son écurie pour décider d'embarquer dans le projet. À un moment donné, ça va prendre la constance. La constance, comment tu l'as? C'est en allant vers le bas, c'est en montant quelqu'un et surtout en le soutenant, ce que Alpine a mal fait avec Piastri, mais en le soutenant, en le montant puis en évoluant avec lui. S'il n'y a pas d'annonce, si on globalise, s'il n'y a pas d'annonce dans deux ans d'une filière à Aston Martin, il va vraiment avoir un gros problème. L'argent, comme tu l'as dit, même si l'entreprise n'est pas d'une bonne forme, est-ce que c'est hyper important d'avoir une filière? Si Alfa Romeo en a une, il n'y a aucune raison pour qu'Aston Martin n'en ait pas.
Mm.
Donc, ça, c'est un côté qui m'inquiète. Donc, effectivement, la question, c'est est-ce qu'encore Stroll a sa place avec Aston Martin? C'est pas aujourd'hui que je vais répondre à ça, mais honnêtement, j'ai l'impression, peut-être qu'il est utile, j'ai aussi l'impression que Lawrence Stroll, en ce moment, n'aide pas son fils en le conservant en elle. Ça va venir souvent, mais j'ai l'impression que pour son fils, c'est pas la meilleure chose.
Ouais, mais si on libère Lance Stroll, je suis même pas sûr qu'il reste en Formule 1. Même Williams, je le voudrais pas.
Effectivement. En ce moment, je pense que Williams se tournerait vers d'autre pilote, peut-être en F2, ou Liam Lawson, peut-être.
Ben voilà, c'est ça la question. Parlons rapidement de Williams, parce que Logan Sargeant, clairement, ben son contrat, c'est un contrat d'un an. Je vois mal comment il peut revenir l'année prochaine. Le niveau a tellement augmenté. Il y a 10-15 ans, on aurait dit oui, OK, il va revenir. Là, aujourd'hui, on ne peut pas. Là.
Ça me fait penser un peu à j'ai peut-être manqué de respect à Brendan Hartley, mais il semble un pilote semblable, dans le sens que sur la piste, c'est pas grand chose. On met des erreurs. Pas d'aide de passage pendant un an. On va l'oublier, mais on va toujours garder son nom en arrière de notre tête en disant OK, oui, il y a une saison.
Hartley, je pense qu'il était meilleur quand même. Je le vois un peu du niveau Pascal Wehrlein. Là. On nous l'a vendu comme étant un très très bon pilote, puis finalement, ça fait patate. Là.
Ah, puis même ses résultats en F2, j'avais été très content de le voir arriver en Formule 1 parce que moi, F2, c'était un pilote. J'aimais beaucoup. Mais fracasser la Formule 2 non plus. Là. Il
ne
fallait pas s'attendre non plus à ce qu'il fracasse la Formule 1. Je m'attendais quand même. En même temps, il y a un coéquipier dans la même situation que chez Red Bull. Il y a un coéquipier qui le domine complètement, qui réussit à faire des choses formidables avec une Williams. Malheureusement pour eux, deux abandons. Un peu patate pour eux en fin de semaine, alors que Sargeant, c'est vraiment, vraiment terrible de son côté. Je me demandais même à un moment donné dans la saison à savoir s'il allait terminer la saison. Williams n'a pas les fonds nécessairement pour faire un changement comme ça, donc la réponse était faite.
Non, et Sargeant amène sans doute suffisamment d'argent pour pouvoir payer son volant lui seul, mais ses accidents lui coûtent cher.
Les accidents coûtent cher en ce moment, surtout dans salarial. J'ai hâte de voir comment ils vont réussir à s'y trouver. Parce que l'impact direct sur le cap salarial.
Ils vont s'y trouver dans la mesure où Williams est quand même dans une bonne position au constructeur, donc ils vont pouvoir assurer des points. C'est pas comme s'ils terminaient dernier comme les autres années. Là. Ils sont en train de terminer septième, là, donc c'est intéressant.
Et tout ça grâce à Albon. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de cette voiture? Malgré, là, on va oublier les abandons d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'Albon est encore en bonne posture pour peut-être aller chercher un point, même si la voiture n'était pas très bonne, disons, à Singapour. Il a quand même réussi à aller chercher une 2. Il aurait pu faire quand même un résultat potable.
La voiture est constante, la voiture est rapide, Albon mérite mieux. Il mérite mieux qu'une Williams, mais c'est bloqué devant. Et on peut dire ça de plein de pilotes en F2 ou de pilotes réserves qui n'arrivent pas à obtenir des volants. Là.
Au grand dame d'avoir une nouvelle écurie.
Peut-être c'est ça. Si Andretti Cadillac / Talentis est vraiment quelque chose, ça peut être intéressant à voir. Parce qu'il manque clairement deux sièges. Je pense qu'on est capable de trouver un bon pilote. On a facilement 19 bons pilotes en Formule 1, Logan Sargeant étant sans doute le mouton noir du groupe. Si on monte à 22, je pense qu'on est capable de trouver quand même trois autres bons pilotes pour compléter la grille. Liam Lawson a clairement le niveau. Je pense toujours que Yuki Tsunoda a le niveau. C'est la voiture qui est exécrable. On ne peut pas vraiment faire grand-chose avec cette voiture-là. Puis après, ben oui, quand Daniel Ricciardo va revenir, donc oui, il y a sans doute de la place pour d'autres bons pilotes. Là. Il y a un Mick Schumacher, sans doute, qui a encore quelque chose à dire. Il y a sans doute quelque chose encore en lui. Donc, si on règle les certains problèmes ici et là, je pense qu'on est capable d'avoir 22 bons pilotes en Formule 1 quand même.
Il faut juste enlever un petit peu le politique de tout ça. Parce que, empêche que ce qui était le fun avant, quand j'ai commencé à suivre la Formule 1, il y avait deux écuries de plus, de la place pour les jeunes. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a certains jeunes qui gagnent un peu. Justement, tu l'as dit, Mick Schumacher qui est un pilote réserve. Même chose avec Liam Lawson. Théo Pourchaire, même si je pense pas qu'il est totalement prêt, s'approche tranquillement de la Formule 1. Va être un bon pilote, quant à moi, en Formule 1. Mais aussi, à un moment donné, il va stagner en Formule 2. Il va falloir que Alfa Romeo lui fasse une place. Il n'y en a pas. Bottas, Guanyu Zhou, qui fait le travail. Aucune raison pour remplacer un des deux présentement. Non. Moi, j'y vois peut-être une ouverture pour Pourchaire en 2025. Mais autre que ça, il manque des écuries.
Puis il ne faut pas oublier aussi qu'on a Audi qui s'en vient en 2026. Ça va apporter beaucoup d'argent, ça va apporter beaucoup de glam, beaucoup d'intérêt. Puis en ce moment, les finances de la Formule 1 sont très positives. Ça fonctionne bien aux États-Unis. C'est le plus gros marché pour la vente d'automobiles. Il y a trois grands prix, il y a beaucoup d'argent qui vont rentrer. Peut-être que les équipes de Formule 1 vont être assez ouvertes pour dire « Ouais, je peux quand même croître, rapporter beaucoup d'investissements, beaucoup de dividendes à mes investisseurs du côté du groupe propriétaire pour accueillir une 11e équipe tout en gardant une certaine homogénéité, un certain niveau. » Donc, il y a peut-être un vrai intérêt finalement pour les équipes de vouloir accepter une 11e équipe. J'ai l'impression que ça va être... les années qui s'en viennent, je pense qu'elles vont être très positives. Pour une fois, je pense qu'il y a un vrai vent de changement, puis une vraie 11e équipe performante. Oui, je pense que c'est possible. C'est pas les Marussia, HRT et Virgin là, de l'époque. Là.
Oui, puis j'ai également, tu sais, je pense que la FOM puis la FIA ont fait un bon travail de placer leur pion, de trouver la bonne personne pour supporter un projet. On sait que Carlin avait tenté de faire une approche. Il y avait deux autres écuries qui avaient tenté de faire leur place. C'est le projet Andretti aurait techniquement été accepté. Là, reste à voir si le politique Formule 1 va venir tout gâcher.
Ils sont backés par un immense groupe qui est Stellantis. Stellantis, juste pour dire aussi, là, c'est Peugeot, Cadillac, Fiat. Qui est en partie propriétaire de Fiat? Ferrari. Donc, Ferrari ne dira pas non à l'arrivée de Andretti Cadillac.
Après ça, c'est le partage des revenus. Ça va être également un sujet.
Si les revenus sont à la hausse, pourquoi pas?
Oui, mais ils ont toujours tiré leur couvercle.
Ah, je sais.
Mais écoute, moi, je trouve que ça peut juste être bon pour la Formule 1. On va peut-être y revenir dans un épisode, peut-être le prochain, peut-être.
Dans quelques grands prix, je pense qu'il y a quelque chose à développer. La saison va finir, puis on pourra y en parler.
va pouvoir en parler franchement. Ça fait à peu près une heure qu'on passe dans cette façon. On va peut-être aller un petit peu plus rapidement sur les autres. Ouais. Peut-être l'un des points qui m'intéresse davantage, c'est peut-être de parler d'AlphaTauri, qui termine à la porte des points quand même. Lawson qui termine devant Tsunoda. Il doit quand même... Je sais pas. J'ai l'impression qu'il doit quand même être frustré. Il a montré quand même durant les derniers Grands Prix qu'il était capable de piloter une AlphaTauri. A battu quand même souvent son coéquipier Tsunoda. Je sais pas dans quelle énergie il doit être. Mais il doit se dire mission accomplie de mon côté, mais j'aurais aimé plus.
Oui, parfaitement d'accord. On arrive... Les chances qu'on a de se dire « Ah, l'année prochaine, je vais être signé en raison de mes performances, peut-être de 1, 2 ou je ne sais pas combien de Grands Prix », c'est jamais très, très élevé. Et si ça l'est, la pression de la nuit suivante peut être dantesque. On en parle à Nick DeVries. Je pense que ça va le hanter jusqu'à la fin de ses jours. Après, bonne performance de Lawson. Tsunoda était devant pour une bonne partie du Grand Prix, a fini par le dépasser, donc... Un peu difficile à évaluer, mais bon, Tsunoda est à domicile. 11e, 12e place, c'est les places à l'arrivée dont on attend de AlphaTauri. C'est dommage, il n'y a pas de points, mais combien de Grands Prix on a vu Tsunoda arriver 10e ou 11e ou.
Vice-versa, puis.
Oui, vice-versa. Donc, c'est la performance à la régulière. On ne peut pas vraiment demander plus. Ils ont été chanceux, il y a eu plusieurs abandons. Ils auraient sans doute fini plus loin, mais n'empêche, 10e, 11e, c'est leur place régulière du Grand Prix. C'est juste dommage, ça ne fait pas de points. Donc, tu termines 11e ou 12e, ça change finalement peu de choses parce que c'est purement symbolique. Tu finis devant ton coéquipier, mais quand tu termines 11e, est-ce que c'est si grave de finir 12e? Non.
Oh, surtout que ils sont habitués depuis le début de la saison. Hein. Pardon, c'est comme tu l'as dit, c'est une position qu'on les. Où on pourrait même enlever le 11 et le 12 et mettre AlphaTauri tu sais, en début de course. Malheureux pour eux parce qu'il manque un petit quelque chose dans cette voiture pour pouvoir se battre avec Alpine pour avoir des points régulièrement. Pourtant, il y a 2-3 ans, j'aurais dit écoute, le projet il est beau, j'ai l'impression que ça avance. Et ne soyez sans crainte. On va revenir sur la signature de Yuki Tsunoda et Ricardo dans l'épisode de ce jeudi. Ça va être l'un des sujets qu'on va aborder avec nos collaborateurs, probablement Anna Maria, qui va être là. Mais quand tu regardes le portrait général de cette écurie, j'ai l'impression qu'ils veulent un petit peu s'enlever de l'écurie sœur. En fait, veulent devenir l'écurie sœur de Red Bull et pas l'équipe junior. Et je m'attendais à une amélioration de leur part cette année. Heureusement, ce n'est pas le cas, mais j'ai l'impression que les pilotes peuvent quand même se baser sur ça pour l'an prochain. Je veux en venir, c'est que j'ai l'impression que cette voiture-là ne pourra pas être pire. Donc, si elle reste constante, ça va juste prendre de meilleures performances de pilotage pour aller chercher des points importants. Puis ça va être à la mission de Ricardo et de Tsunoda d'aller faire ça.
Exact. J'ai tout simplement rien d'autre à dire. Je suis complètement d'accord avec toi.
Et c'est sur le point des pilotages que ça va se faire. Et une autre écurie, peut-être, bon, on va terminer l'épisode comme ça, mais Haas, encore complètement invisible. L'investissement de Jean Haas et de ne pas se faire voir en piste. Écoute, j'ai très peu de notes sur eux, à part l'incident... impliquant Magnussen avec...
On les a pas vus.
Perez, pardon.
Ouais, on les a absolument pas vus. Ben, disons que si on bascule dans l'actualité sociopolitique du moment, disons que Gina a d'autres problèmes à régler en ce moment. Allez voir les reportages d'investigation faits par PBS concernant Haas Enterprises, Haas Automation. Vous allez comprendre où peut-être Gene se concentre actuellement. Et non sur le day-to-day. Il y a aussi toujours cette rumeur Oui, on a notre ami Gunther Steiner qui voudrait poursuivre Gene Haas pour quoi, 700 millions de dollars parce qu'il revendique des ayants droit sur la création de l'équipe de Formule 1. Ça me semble aussi un petit peu exagéré tout ça quand même. Mais l'autre aspect là, sur As Automation Inc. Allez voir ça en regardant ce que PBS a diffusé au mois de mars et au mois d'août, c'est assez flagrant. C'est assez dur.
Ça brosse. Et As, de autant en Formule 1 que dans l'entreprise mère. Globalement, je pense qu'on peut être satisfait de ce Grand Prix du Japon. C'est un petit retour là, assez rapide. Là. On aurait pu parler de bien d'autres choses. Mais un petit éditorial de fin, je pense que Suzuka est, encore une fois, je l'ai dit en ouverture, mais c'est probablement l'un de mes Grands Prix favoris. C'est magnifique. Je pense que vraiment à Suzuka, l'on peut voir pilotage peut-être revenir à l'avant, même si la voiture est très importante. Je pense qu'une performance comme Verstappen lors des qualifications descend à 1,28 alors qu'il fait très chaud. On ne s'attendait pas vraiment à ce qu'on descende en bas de 1,29. C'est un pilotage formidable. Je pense que c'est vraiment, vraiment un beau spectacle que nous avons eu en fin de semaine. Je te donne peut-être le mot de la fin, Jean-Sébastien.
Alors, la question pour toi, Marc-André. Verstappen, champion du monde samedi ou dimanche à Lausanne, au Qatar? Sachant qu'il a besoin de marquer 6 points pour être champion du monde. Et 6 points, ça se fait au sprint en finissant 3e. Alors, ma question, samedi ou dimanche?
Ça va être samedi. Mon souhait, c'est que ce soit dimanche. Mon souhait, c'est que... un abandon samedi, ce serait pas grave là, pour Verstappen.
Ça serait dommage de gagner un championnat du monde le samedi. On avait prédit à la création des sprints que ça serait frustrant de voir un championnat du monde se régler lors d'un sprint. Cette année, on a décidé de nous coller 3 sprints dans les 6 derniers Grands Prix parce qu'on a Qatar, Austin et Sao Paulo. Disons qu'on s'est aligné pour qu'un championnat du monde se règle un samedi. Ça risque de l'être. Ça va être extrêmement malheureux. Je n'ai pas envie de voir ça. Mais ouais, il va falloir qu'on soit devant nos écrans de télévision pour voir Max Verstappen 3 fois champion du monde.
Et
un samedi. Hein,
un samedi, exact. Il ne faut pas l'oublier. En même temps, je pense que pour nous, ça aurait pu arriver aussi à Las Vegas un samedi.
Mais c'est un dimanche parce que le Grand Prix, c'est un samedi à Vegas, mais c'est dimanche. Mais techniquement, on s'entend, c'est un dimanche là, quand même, là, mais n'empêche.
Oui, effectivement, c'est dommage que ça... parce que ça va se régler là. J'ai pas l'impression que Max peut terminer en bas de 3e lors de cette course, à part dans un accident.
Il y a 32... Il y a quoi? Il y a 34 points disponibles sur un week-end avec un sprint, 26 plus 8. Il doit aller en chercher 6. Il est allé chercher 6 points minimum dans tous les Grands Prix depuis le début de la saison. Je vois mal pourquoi il n'irait pas en chercher 6 quand il y en a 34 de disponibles.
Donc, Max Verstappen sera couronné triple champion du monde à partir du samedi. 14.
Lors du sprint, à notre plus grand désarroi.
Soyez bien devant vos téléviseurs pour voir tout ça arriver. Max Verstappen qui entrera en partie dans l'histoire avec ce championnat. Je pense qu'à partir de 3, on peut dire que tu commences à devenir un pilote marquant.
Moi, je trouve qu'à partir de 2, tu l'es, tu vois. Mika Häkkinen, je trouve que c'est marquant quand même 2 fois. Là. Okay. Une fois, ça peut relever de l'exception ou un peu du hasard ou un peu de difficulté. À partir de 2, là, on commence à séparer beaucoup de gens là, déjà. Là. Ouais. On commence à faire un bon écrémage.
J'ai l'impression qu'aussi, on va revenir là, c'est pour ça que...
Trois, on entre dans la légende, je suis d'accord, parce que 3 c'est Senna, 3 c'est Jackie Stewart, là, on est ailleurs.
Pour mes petits-enfants ou pour mes enfants, Verstappen avec ce 3e championnat du monde va entrer dans l'histoire.
Chose.
Exact.
Ouais.
Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. Abdou sera de retour dans le coin du 14 octobre. Il nous fera plaisir d'être avec vous pendant ce temps-là pour le prochain mois. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, @bulletingGP. Soyez des nôtres. J'ai pas été très actif sur Twitter cette nuit. Disons que
oui, t'as dormi.
Assoupli un peu durant le grand.
C'est normal.
Donc, je vais essayer d'être plus actif là, lors des prochains Grands Prix. Et également, lors de la semaine, je vais essayer de vous mettre quelques nouvelles qui vont sortir durant la semaine. Si... Bon, soyez des nôtres également pour l'épisode de jeudi prochain. Il n'y a pas de scoop ici. On va parler un petit peu de la situation AlphaTauri, Tsunoda, Ricciardo, Lawson. Et je vais sûrement vous préparer peut-être un petit de plus. Donc, on enregistre officiellement mardi. Vous pouvez également nous envoyer des questions par Twitter ou par Facebook. Il va nous faire plaisir d'y répondre. Ça va être, des épisodes différents. Beaucoup moins de références soccer et de références des années 90. Je suis un petit enfant de 2000, hein, donc mes références sont un petit peu plus près. Donc, je vais essayer quand même de vous sortir quelques surprises durant mon animation. Merci Jean-Sébastien d'avoir été des nôtres pour cet épisode d'après-course. Merci beaucoup et on va se retrouver lors des prochains épisodes, j'imagine.
Oui, tout à fait. Tu t'en sors très bien parce que tu ne seras pas à l'animation pour le Grand Prix du Qatar, Grand Prix que je déteste. Donc, c'est malheureusement Julien qui devra devoir se taper toute la haine que j'ai envers ce circuit de Lausanne.
C'est vraiment, vraiment pas voulu de rater ça. J'aurais
Quel
bien
dommage.
Aimé. Mais je pense que tu es déjà en train de te pomper un peu. Donc, soyez des nôtres lors de l'après-course dans la fin de semaine du 7 octobre. Je pense que ça va. Il va y avoir des flamèches. Ce ne sera pas à cause des planchers de Formule 1, à cause de Jean-Sébastien.
Ah.
Donc, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, @lebulletingp. Nous suivre sur toutes les plateformes Spotify et le balado Apple. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente semaine.